Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit.
Eh bien, j'aimerais que nous ouvrions ensemble la parole de Dieu dans Marc au chapitre 12. Marc 12, c'est un chapitre important qui se situe après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus va y vivre sa dernière semaine avant la condamnation, avant son jugement, avant sa mort à la croix. Et à un moment donné, il va dans le temple. Et à partir du verset 28, il nous est dit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que d'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force. » Et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Que personne ne sorte de cette salle avec cette pensée, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, mais tu n'es pas dedans. » Le Seigneur ouvre sa main, il ouvre son cœur pour chacun d'entre nous. Et il ne veut que personne ne soit perdu et que tous puissent entrer, que son nom soit glorifié. Jésus, quand il était dans le temple et qu'il avait répondu aux scribes, eh bien, certains sont venus pour essayer d'enfoncer le clou. Ils cherchaient toujours l'occasion de prendre Jésus à défaut. Et là, il lui pose en fait une question théologique en lui disant, « Seigneur, mais quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus fait montre d'une connaissance parfaite des Écritures. Il répond en disant au verset 29, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et quand il répond de cette façon-là, en fait, il rappelle ce que Moïse avait donné dans la loi. Et j'aimerais que nous lisions encore ce texte dans l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome. Le Deutéronome, vous savez certainement, c'est le livre du rappel. Moïse a donné la loi, particulièrement dans l'Exode, et également dans le Nombre. Et dans le Deutéronome, Moïse est près de sa mort. Et en fait, il rappelle avant sa mort tout ce que Dieu a donné. Et c'est un petit peu comme un testament spirituel. Il sait qu'un principe de base, quand on veut apprendre quelque chose, c'est de répéter. Alors il répète encore une fois, il dit notamment au chapitre 6, qui est un des chapitres les plus importants de tout le livre du Deutéronome, c'est le grand chapitre où il prononce plusieurs fois cette parole « Écoute Israël ». Et pour le peuple juif, en hébreu c'est « Shema Israël ».« Shema » c'est un verbe très fort, c'est « Écoute de toutes tes oreilles ». Entre parenthèses, c'est le mot « Shema » qui a donné le mot « Shmuel », »,« Samuel », »,« Dieu écoute », »,« Dieu a écouté » ou « Dieu a exaucé ». Et Moïse dit plusieurs fois « Écoute, ouvre l'oreille ». Il ne faut pas que ça rentre dans une oreille et que ça sorte dans l'autre. Il faut que tu comprennes la parole de Dieu, qu'elle descende dans ton cœur et que tu la gardes liée dans ton cœur. Et nous lisons ceci au verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel Dieu est le seul éternel. » Et c'est exactement ce verset que Jésus va reprendre dans Marc 12. Verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Et en fait, Jésus rappelle ces paroles. Il dit aux Juifs qui sont là autour de lui, il dit, écoutez, le plus important, c'est d'écouter l'Éternel. Et pas seulement de l'écouter de façon intellectuelle, mais de mettre en pratique ces paroles dans vos vies. C'est peut-être ce qui vous manque à vous les Juifs religieux. Et il le rappelle cette parole de Moïse qui disait « Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison ». À cette époque-là, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les cassettes, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens pédagogiques que nous avons même, maintenant, même pas les traités et la page imprimée. Et comment est-ce que la tradition passait d'une génération à l'autre? Par la voie orale. Et Moïse dit, c'est très important, ce que vous avez vécu avec moi, il faut que vous les inculquiez à vos enfants. Et qu'à leur tour, vos enfants devenus grands les inculquent à leurs enfants. Et que les bénédictions de l'Éternel restent au sein de notre peuple. Et vraiment ce matin, je suis réjoui, j'étais profondément réjoui de voir tous ces enfants. Souvent on entend dans les églises que les enfants c'est la génération qui vient, c'est la nouvelle génération, celle qui est derrière nous. Mais j'aimerais dire aussi ce matin, les enfants c'est la génération présente. Et le Seigneur Jésus, je peux vous le dire, j'ai passé tout le mois de janvier en Afrique, j'ai vu combien le Seigneur utilise aussi les enfants pour glorifier son nom. Moi-même, j'ai trouvé le Seigneur à l'âge de 10 ans, mon épouse également, et on faisait partie de l'église à 10 ans. C'était pas la génération à venir, c'était aussi la génération présente. Et souvent, le Seigneur Jésus nous demande de nous souvenir des enfants, de la foi simple qu'ils ont, de venir à lui et d'obtenir de sa part les promesses qu'il leur fait. Eh bien, que cette foi soit ancrée dans notre cœur, cette foi simple. Et Jésus, donc, dans Marc 12, rappelle à ces personnes très religieuses ce que Moïse avait dit dans Deutéronome 6. Il y dit, c'est très important que vous écoutiez la parole de Dieu. Alors, je vais vous résumer les 10 commandements. Vous voulez peut-être me piéger à cet égard? Eh bien, ils se résument par 2 commandements très simples. Le premier, c'est aimer Dieu. Et je vais vous expliquer ce que c'est aimer Dieu. Et vous savez, c'est frappant, quand on lit les évangiles, toutes les paroles de Jésus sont importantes. C'est frappant de voir que Jésus ne parle jamais de trop ou pas assez. Une phrase du Seigneur Jésus est un message en soi, c'est une leçon profonde. Il n'y a jamais un mot de trop et jamais un mot qui manque. Et quand il dit quelque chose, c'est important de s'arrêter sur ce qu'il dit parce que c'est un enseignement profond pour nos vies. Et je pense que ce qu'il nous dit dans le texte que nous avons lu ce matin peut être un enseignement pour nous aujourd'hui, réunis en ce lieu. Il dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et si tu aimes Dieu de cette façon, eh bien tu résumes déjà pratiquement la totalité des commandements. Il y en a un deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux ensemble résument le tout. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vous l'ai dit, chaque parole du Seigneur sont importantes. Là, il nous donne une clé très importante pour notre vie chrétienne. Il dit, aimer Dieu, en fait, c'est 4 choses. C'est 4 choses qu'il faut mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Aimer Dieu, c'est d'abord l'aimer de tout votre cœur. C'est par là que tout commence. Les histoires d'amour commencent par le cœur. Vous êtes bien d'accord? Le jour où j'ai aimé ma femme, c'était pas quelque chose d'intellectuel. Je lui ai dit, je t'aime. Et c'est parce que mon cœur était plein d'amour pour elle. Et l'amour est un sentiment profond et noble que Dieu met dans nos cœurs. D'ailleurs, l'exemple parfait de l'amour, c'est Dieu, puisque le caractère fondamental de Dieu, c'est l'amour. Et il nous a manifesté son amour en nous envoyant son Fils Jésus. Le cœur, c'est le siège profond de notre affection. Et il est important. La Bible dit dans un verset, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et ce message est important aujourd'hui parce que nous voyons dans les églises et dans le monde, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, beaucoup d'influences se manifester. Et notre cœur a tendance à être partagé, parce qu'on dit, oui, j'aime le Seigneur, mais je voudrais aussi aimer un peu le monde. Je voudrais aussi garder un peu ce que le monde me propose. Et le Seigneur dit, aime Dieu de tout ton cœur. Pas seulement à 50% de ton cœur, de tout ton cœur. Dieu veut la totalité de notre cœur. Et ça, c'est vraiment un défi qui nous lance ce matin, de revenir en nous-mêmes. Est-ce que nous avons ce premier amour pour le Seigneur? Est-ce qu'il est, son amour est tellement grand dans nos cœurs que l'amour du monde s'éteint? Que lui, ce qu'il a fait en nous envoyant Jésus, son Fils, à la croix, suffit pleinement à notre bonheur et à pouvoir lui dire par nos chants d'adoration, par notre prière, Seigneur, vraiment je t'aime. Vraiment, je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Et voyez, c'est important, Jésus commence par là, il commence par le cœur, parce que nos sentiments souvent peuvent nous tromper. Nous les humains, souvent nous chutons justement au niveau de nos sentiments. Nos sentiments peuvent être exacerbés, peuvent aller trop loin dans un sens ou dans un autre, et nous voiler la réalité des choses. Et c'est pour ça que la parole nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Aime Dieu de tout ton cœur. C'est ça la priorité de ma vie. L'affectivité et tout ce domaine de notre cœur doit être contrôlé, doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Ça, c'est aussi la parole de Dieu qui le dit. Ne pas nous affectionner aux choses de la terre, mais nous affectionner aux choses d'en haut. Gardons notre cœur, veillons avec l'aide du Saint-Esprit sur nous-mêmes. Et ensuite, Jésus dit une deuxième chose. Il dit, aimer Dieu, c'est bien sûr l'aimer de tout mon cœur. C'est un petit peu le coup de foudre. Hein. Au moment de la conversion, moi, je me suis converti à l'âge de 9 ans et demi, à la suite d'une maladie mortelle. J'aurais dû mourir d'une maladie du foie. Et dans sa grâce, le Seigneur m'a touché et m'a guéri. Et quand j'ai accepté Jésus à l'âge de 10 ans, la joie du Seigneur est venue dans ma vie et c'est quelque chose d'indescriptible. C'était un peu un baptême d'amour. J'ai vraiment eu un tel amour pour le Seigneur au moment de ma conversion. Je me souviens la première nuit, j'ai pris ma Bible et je l'ai mis sur mon cœur. J'ai passé toute la nuit à dormir avec la Bible pressée sur mon cœur parce que j'avais découvert le plus grand trésor. Et quand je me suis marié, c'était la même chose. On s'est marié parce que d'abord entre nous, il y a cette flamme de l'amour qui s'est réveillée et qui est importante pour ensuite pouvoir faire un projet de vie ensemble. Mais ensuite, la vie continue. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, bien sûr, parce que c'est le départ, mais aussi de toute ton âme. De toute ton âme. Et l'âme, c'est le siège de la volonté. L'âme, c'est ce que je veux, c'est la décision que je prends. Et quand vous regardez la vie des serviteurs de Dieu dans la Bible, ceux qui ont vraiment été en bénédiction, vous voyez que pour chacun d'entre eux, il y a eu un moment où ils ont pris une décision volontaire. Ils se sont engagés personnellement. Vendredi, nous avions la réunion de prière chez nous et je parlais de Caleb. Il y a dans Josué un verset où Caleb se présente devant Josué et lui dit « Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 40 ans dans le désert ? Moi, j'ai pris la décision d'honorer Dieu. Et aujourd'hui, je réclame mon héritage, 45 ans plus tard ou 40 ans plus tard. Moi, à l'époque, j'ai pris la décision de suivre Dieu. On était tous les deux seuls, toi et moi. Tout le peuple était contre nous, il parlait même de nous lapider. Mais nous avons pris position, Dieu nous a bénis et aujourd'hui, je veux entrer dans mon héritage. » Un peu plus tard, dans Josué 24, Josué dira, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est une décision de sa part, une décision ferme. Il a dit, « Moi, je vous ai dit maintenant ce qu'il faut faire. Si vous voulez quitter Dieu, vous allez sortir du cadre que Dieu a fixé et vous serez malheureux. Mais si vous voulez être heureux, restez dans le cadre. Moi, je veux rester dans ce cadre. Moi et ma maison, en tant que chef de famille, il a pris cette décision, il l'a fait connaître à son peuple. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu. Je pense juste encore à Daniel, au prophète Daniel, qui est une vie tout à fait exceptionnelle. Eh bien, Daniel a commencé sa vie très jeune avec le Seigneur. Et il était dans un contexte où il a été tenté de différentes façons. Et dans Daniel 1, verset 8, il nous est dit, « Daniel résolut de ne pas se souiller. C'était un effort de volonté. C'est pas, il n'avait ni son père, ni sa mère, ni ses sœurs, ni personne pour lui dire, écoute, je te conseille de ne pas te souiller. Il avait eu, il avait été éduqué dans la parole de Dieu, il avait eu cet enseignement de base, et maintenant arrivait le test de sa foi. Et devant ce test, il devait prendre une décision personnelle. Et la Bible nous dit, Daniel résolut. Et ça, c'est le point de départ de tout le livre de Daniel, de toutes les bénédictions que Daniel a pu ensuite recevoir. Daniel a perduré sur quatre royaumes. Quatre royaumes se sont succédés à l'époque de Daniel, et Daniel était au top, était au sommet lors de ces quatre royaumes qui, l'un après l'autre, sont tombés, mais lui, il est resté. Il était toujours, il est toujours resté premier ministre des différents rois qui se sont succédés, parce que c'était un homme résolu pour Dieu. Chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller, et dès le verset 9, la réponse de Dieu, et Dieu fit trouver grâce à Daniel. Le point de départ, c'est ma résolution. Aimer Dieu de tout mon cœur, oui, parce que j'espère que pour chacun de nous, et pour ceux peut-être qui ne l'ont pas fait, aujourd'hui c'est le jour favorable de venir au Seigneur, mais pour les autres qui ont connu la joie du salut, eh bien c'est le point de départ. Mais maintenant la vie continue. Et nous sommes appelés par la parole de Dieu à continuer notre vie par la foi jusqu'au bout. Par la foi jusqu'au bout. Et là, la volonté joue. Et pour reprendre l'exemple de l'amour conjugal, eh bien, à l'heure actuelle, les couples sont de plus en plus en danger. Et nous voyons des choses qui se passent à l'heure actuelle que, vraiment, moi je ne me souviens pas dans mon activité professionnelle ou pastorale avoir vu ces choses dans le passé. Il y a, en ce moment, le diable cible la famille et les couples d'une façon particulière. Il faut que les couples tiennent dans l'amour, mais aussi dans la vérité et dans la volonté. Quand je dis à ma femme « je t'aime », ça veut aussi dire « je veux t'aimer ». Et le jour où je m'engage par le mariage, et ensuite j'ai toute la vie devant moi. Et dans la vie, dans les difficultés de la vie, eh bien, les difficultés sont le test de mon amour. Et à ce moment-là, je dois, si je l'aime, pouvoir lui dire, je me suis engagé, je veux t'aimer. Même si le moment a passé difficile, je me suis engagé. C'est un effort de volonté. Et c'est très important, voyez-vous, que les deux aillent de pair. Nous aimons le Seigneur avec notre cœur, mais nous l'aimons aussi avec notre volonté. La volonté accompagne le cœur. C'est comme ça que Dieu nous a créés, c'est comme ça que Jésus nous dit que nous devons aimer Dieu. Et ensuite, il continue, il donne une troisième direction. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aussi de toute ta pensée. Et là, nous touchons un point particulièrement sensible. Parce que le diable connaît nos pensées. Et le diable nous attaque le plus souvent par nos pensées. C'est vrai ou c'est pas vrai? Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je ne sais pas, peut-être qu'ici, à la table, vous êtes protégés. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est par les pensées, souvent, que ça commence. Et le diable sait qu'on est vulnérable au niveau de nos pensées. Et par exemple, vous commencez la journée avec le Seigneur, bon, ben, vous lisez votre Bible, et puis il y a le téléphone qui sonne, et puis voilà, les pensées sont dispersées, ou il y a quelqu'un qui vient, ou le Seigneur vous dit, ben, aujourd'hui, hein, on n'oublie pas, tu as tel rendez-vous à telle heure, ah ben oui, c'est vrai, et puis voilà. Et nos pensées sont sans arrêt dissipées. Et nous perdons la qualité de notre rencontre avec Dieu, parce que tout le temps, le diable vient pour nous voler les bénédictions que Dieu veut nous donner. Et c'est la raison pour laquelle Jésus donne cette direction-là. Tu aimeras aussi Dieu de toute ta pensée, parce qu'il est difficile de dompter nos pensées. Il faut le reconnaître. C'est difficile de dompter nos pensées. C'est le lieu des combats spirituels les plus forts, le domaine des pensées. Quand on veut prier, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la pensée du Christ. Nous élevons toutes les hauteurs qui sont charnelles, tout ce qui vient de l'ennemi et qui s'oppose à la pensée du Christ. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous donner sa pensée. » Dans le domaine prophétique, vous ne pouvez pas communiquer la pensée de Dieu si vous-même, vous n'êtes pas en contact avec Dieu. Sinon, c'est une parole humaine, ce n'est pas une parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus insiste. Il a dit, si tu veux aimer Dieu, Alors soigne ta relation avec Dieu au niveau des pensées. Garde tes pensées. Établis une muraille autour de tes pensées. Discerne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que quand nous étions des bébés dans la foi, nous en étions encore au lait. Mais que, en grandissant dans la foi, eh bien, je vous invite, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à prendre une alimentation plus consistante. Et puis, de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement vient avec l'avancement de notre vie spirituelle. Le Seigneur nous met ce discernement du bien et du mal, nous permet de ne pas tomber ou de ne pas être influencé tout de suite dès qu'on entend quelque chose qui nous trouble, mais de fixer nos pensées vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, maintenant j'ai entendu les pensées des hommes, j'ai entendu tout ce que les gens disent autour de moi, j'ai une décision personnelle à prendre. Et toi seul, tu peux m'inspirer. Alors, à ce moment-là, il faut fermer les différentes longueurs d'ondes du poste de radio, les longueurs d'ondes personnelles. Il faut fermer tous ces boutons et juste brancher encore la bonne longueur d'onde, la longueur d'onde céleste. Et que le Seigneur puisse baigner nos pensées de ses pensées et nous donner sa pensée, qui souvent est bien différente de ce que nous pensons a priori. Mais pour cela, il faut vraiment faire cet effort de bien l'écouter. Veillons sur nos pensées, parce que c'est vraiment le lieu de combat spirituel acharné et qui demande une grande discipline. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est une chose. Ensuite, on continue notre vie par la foi, en l'aimant vraiment de toute notre volonté et dans les moments difficiles, prendre position pour le Seigneur. Par exemple, le baptême est un de ces actes fondamentaux de la vie chrétienne où je m'engage volontairement. Je ne demande pas le baptême parce que ça fait plaisir à ma belle-mère, mais parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et je veux m'engager. Je veux m'engager devant le monde visible et le monde invisible jusqu'à la mort pour Jésus-Christ. Amen. C'est ça le baptême, c'est un acte volontaire. Et ensuite, les pensées. Ensuite, les pensées. Alors là, les pensées, ça c'est le domaine qui nous intéresse tous les jours et tout le temps. Nous sommes, en ce moment, chacun de nous, vous avez des pensées, nous avons tous des pensées qui traversent notre esprit. Et dans ce domaine-là, nous devons aussi aimer Dieu, le mettre à la première place pour pouvoir capter ce qu'il a à nous dire. Et enfin, il ajoute, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je pense qu'il faut prendre le mot force au sens tout à fait original, au sens presque physiologique du terme, médical, la force physique que le Seigneur nous donne, l'énergie que le Seigneur nous donne. Mais bien sûr, de toute ta force, avec la pensée, avec notre volonté, nous pouvons donner à notre corps et à notre vie une direction, faire des choses dans la vie qui honorent Dieu. Aimer Dieu de toute notre force, de toute notre énergie. Nous avons besoin de cette énergie pour servir Dieu et pour combattre, pour discerner la pensée de Dieu, pour chercher l'efficacité personnelle, pour que notre énergie soit concentrée sur les choses qui plaisent à Dieu et pas les choses secondaires. Souvent, le diable veut aussi voler notre temps et nous amener à faire des choses qui ne sont pas tellement importantes. Et quand vous faites le bilan à la fin de la journée ou à la fin de l'année, quand on arrive à Nouvel An, on se dit, mince, j'ai quand même perdu beaucoup de temps pour des choses secondaires. Et j'aurais pu donner plus de temps pour le Seigneur. Et là, laissons-nous interpeller quel est le temps que nous donnons à la télévision, que nous donnons au loisir, que nous sommes devant notre écran à surfer sur Internet ou je ne sais pas. C'est bien de s'informer. Mais il faut que la priorité de notre vie, c'est d'aimer Dieu. Le reste, c'est secondaire. La priorité, c'est aimer Dieu. Et nous devons nous remettre en question, moi le premier, de savoir si les priorités sont bien posées dans ma vie. Je pense à Gédéon. Vous savez, Gédéon, c'était un homme qui avait assez peur d'aller au combat. Et il a dit, quand il a eu l'appel de Dieu sur sa vie, il avait envie de dire, « Seigneur, envoie n'importe qui, sauf moi. » Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit ? Il lui dit, va avec cette force que tu as. Aimez Dieu de toute ta force. Va avec cette force que tu as. Ne te fais pas de soucis, tu te sens faible. Eh bien, c'est justement ce que je veux. Je veux que tu te sentes faible parce que tu vas être fortifié par ma présence. Et l'apôtre Paul a également expérimenté cela. Il a dit, c'est dans ma faiblesse que la grâce de Dieu se manifeste et que je suis fort. Je ne suis pas fort par moi-même, mais par la grâce de Dieu en moi. Et la grâce de Dieu en moi peut me permettre de surmonter les difficultés. Et ça, c'est une expérience qu'on voit très concrètement dans la vie des chrétiens persécutés. Je pense particulièrement à nos frères chinois. Nous avons le privilège de voyager souvent ensemble avec le frère Yun, qui a écrit le livre « Le citoyen du ciel », que vous avez peut-être lu, certains. Je vous le présenterai en tout cas encore tout à l'heure. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois avec lui, et même jusqu'aux extrémités du monde. Mais ce qui me frappe chez cet homme, qui est très humble, très très humble, c'est sa relation constante avec le Seigneur. Et lui qui a été 10 ans torturé dans les prisons chinoises, vous ne voyez sur lui aucune trace de souffrance, ni physique, ni morale, ni spirituelle. Et d'ailleurs, si je me permets de faire un petit mot de publicité, venez l'écouter, il viendra en Suisse romande entre le 30 avril et le 3 mai. Il sera notamment à la Chaux-de-Fonds. Le 30 avril au soir, le samedi 30 avril au soir, l'information va passer dans les églises. Venez l'écouter, non pas pour voir un homme, mais pour voir ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui se sent vraiment faible, qui se sent démuni, mais en qui Dieu peut manifester sa puissance. Et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes sont venues au Seigneur Jésus en Chine par son témoignage. Un homme tout simple, qui n'avait aucune instruction, qui a peut-être été 2 ans ou 2 ans et demi à l'école tout au plus, pendant la révolution culturelle, mais que Dieu a utilisé, parce qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toute sa force, et Dieu fait le reste. Eh bien, ça c'est le premier commandement. Jésus dit, voici le second, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Dieu veut que l'amour que nous avons pour lui, tu aimeras Dieu, eh bien, que cet amour que nous avons pour lui, nous le partagions à notre prochain. Eh bien, je crois qu'il a fait de nous des êtres humains, nous ne sommes pas... il n'a pas choisi les anges pour annoncer aux hommes le message de la bonne nouvelle. Il a pris les hommes que nous sommes. Et quand nous avons été régénérés par l'action du Saint-Esprit en nous, Dieu veut nous utiliser pour que nous puissions manifester son amour à tous ceux qui nous entourent. Et vraiment... Je suis dans une joie profonde ce matin d'être parmi vous et de voir, parce que j'ai entendu souvent parler de ce que Dieu fait dans cette région, chez vous ici, et bien de le voir, d'être parmi vous ce matin et de pouvoir me réjouir avec vous de ce que Dieu fait. Mais Dieu a besoin de nos bouches, il a besoin de nos jambes, il a besoin de nos mains, il a besoin des êtres humains que nous sommes pour aller. Et quand nous allons, lui nous équipe. Il nous donne toujours les moyens d'accomplir la tâche à laquelle il nous appelle. Eh bien, je crois pour terminer que la meilleure conclusion, c'est de rappeler que le monde dans lequel nous vivons a besoin de voir une Église qui s'aime. Alors, on entend beaucoup de prédications sur l'amour, aimez-vous les uns les autres, mais mettons les choses dans le bon ordre. Jésus dit, aime Dieu. De cette façon-là. D'abord, regarde-toi toi-même. Avant de voir ton frère et puis de voir la paille qui est éventuellement dans son œil, regarde quelle est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu aimes vraiment, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force? Et ensuite, si ces 4 conditions sont réunies, je pourrai aimer mon prochain comme moi-même. Que le Seigneur nous donne d'être comme des vecteurs par lesquels des canaux par lesquels l'amour de Jésus soit déversé sur les autres.